fait, là, donc c'est un petit peu le plan de ce que je vais dire. Donc, embryon, déjà, le mot, ce qui veut dire, ça vient du grec, mais c'est symptomatique parce que ça veut dire quelque chose qui croît à l'intérieur. Hein. Donc, l'embryon croît effectivement à l'intérieur de l'utérus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Donc, je vous rappellerai, j'illustrerai le développement, en fait, de l'œuf fécondé, donc le zygote, jusqu'au stade du fœtus. Et puis ensuite, je vous montrerai en quoi la fécondation in vitro, la possibilité d'assistance médicale à la procréation, donc fécondation in vitro, a complètement changé la donne vis-à-vis de notre réflexion sur l'embryon. Et j'aborderai finalement les questions éthiques. Alors tout d'abord, je voulais vous illustrer le développement finalement d'un embryon humain. Alors ici, c'est au cours de la première semaine. Donc au cours de la première semaine, la toute première étape, comme vous le savez certainement, c'est le zygote, donc c'est l'ovocyte qui a été fécondé par le spermatozoïde. Et vous voyez ici, il y a les deux noyaux de l'ovocyte et du spermatozoïde qui vont fusionner. Et à partir du moment où ces deux noyaux fusionnent, en fait, on a le début de l'embryogenèse. Donc on parle, au moins en France, on parle d'embryon à partir de ce stade-là. Dans d'autres pays, on parle de pré-embryon, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et puis cette cellule, donc cette première cellule embryonnaire, va se diviser. Donc elle donne ici deux cellules, puis quatre cellules, puis huit cellules. Donc vous voyez, tout ça, ça se passe en 72 heures. Et tout ça, ça se passe donc dans la trompe. On n'est pas encore dans l'utérus, on est dans la trompe quand il y a fécondation physiologique in vivo. Et puis, on arrive comme ça jusqu'au cinquième jour. Donc vous voyez que l'aspect de cet embryon, il change complètement. Et à partir du cinquième jour, vous voyez que ça ressemble plus du tout à ce que c'était ici, par exemple. Et on voit, on distingue très bien ici une petite masse, et ce qu'on appelle la masse interne, et c'est à partir de ce petit bourgeon, finalement, que vont naître tous les tissus de l'organisme. Et donc, à part ça, c'est le stade qu'on appelle blastocyste. Et donc, les cellules qui sont à l'intérieur de ce petit bourgeon sont des cellules qu'on dit pluripotentes, et elles vont donner tous les tissus de l'organisme par le processus d'embryogenèse. Alors que les cellules qui sont autour, ici, elles vont donner le placenta. Donc, vous voyez qu'au cinquième jour, on a déjà toute l'information dans l'embryon pour former l'ensemble, finalement, de l'individu. Et à ce stade qui est important, le blastocyste, il a migré dans la trompe, il arrive dans la cavité utérine, et à ce stade, le blastocyste va s'implanter dans la cavité utérine. C'est-à-dire que l'embryon va entrer à l'intérieur de la muqueuse utérine, et ici, il va s'implanter. Et à partir de ce moment-là, tout va se passer dans la muqueuse utérine, donc dans l'utérus, et donc on a plus accès, entre guillemets, à l'embryon à partir de ce moment-là. Et ensuite, le développement embryonnaire se poursuit. Ici, par exemple, on est au jour 22, et vous voyez que ici, c'est le début de l'embryon, donc qui à ce stade ressemble, donc on est à 3 semaines, ça fait 2 à 4 mm, et vous voyez à quoi ressemble cet embryon humain à ce jour 22. Donc vous voyez qu'ici, entre le jour 5, où il y avait cette petite masse, et le jour 22, où on commence à voir le développement embryonnaire, il y a quand même une différence considérable. Et puis ensuite, l'embryon donc s'est implanté dans la muqueuse, et ce qui est important ici, c'est pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble un embryon finalement au jour 12. Vous voyez que il y a deux cavités en haut et en bas ici, et ici vous voyez c'est un disque, voilà un embryon, donc c'est un disque tout plat à ce stade là et on peut distinguer en fait trois couches, une couche bleue qu'on appelle l'ectoderme, une couche jaune en bas qu'on appelle l'endoderme et une couche au milieu qui est rose. Et chacune de ces couches va donner des tissus différents. Par exemple, la couche bleue ici, elle va donner le système nerveux et la peau, et puis la couche jaune en bas, elle va donner les intestins et les poumons. Donc vous voyez, à ce stade-là, on est au stade où trois couches superposées de cellules, mais vous ne distinguez absolument aucune organisation. Et ici, vous voyez qu'à ce stade de 12 jours, 12 à 14 jours, on commence à voir ce qu'on appelle une ligne primitive qui se creuse à l'intérieur de l'embryon ici et qui commence à signifier l'organisation du système nerveux. Donc c'est important parce que il y a dans certains pays, cette limite de 14 jours signifie le passage du pré-embryon à l'embryon, c'est-à-dire en fait le début de l'organisation d'un système nerveux. Donc là, on est en situation, on est à peu près au 14e jour, et puis ensuite, toujours dans la cavité utérine, le développement se poursuit. Donc ça, c'est le jour 22 que j'ai montré tout à l'heure. Puis on passe au jour 30, dans à peu près un mois. Vous voyez qu'on est encore à 3 à 5 mm, donc très petit. Et puis à la 7e semaine, on a 16 à 18 mm. Et vous voyez qu'à ce stade-là, donc l'embryon est dans sa cavité amniotique. Et vous voyez que vous avez déjà à peu près tous les organes qui sont formés et reconnaissables. Les membres sont reconnaissables. Le cœur, ici, a déjà commencé à battre. Il y a un cerveau qui est déjà organisé, des yeux, des oreilles. Donc, il y a en fait, tout est reconnaissable. Et en fait, c'est à peu près à cette semaine 7-8 que on parle non plus d'embryon, mais de fœtus. Donc, bien que là, la frontière entre les deux est très très floue. Disons que c'est plus un langage qu'on utilise, mais à partir du moment où finalement l'embryon a organisé tous les tissus et tous les organes, et qu'il est finalement qu'on reconnaît ce qui fera les tissus et les organes de l'enfant qui va naître, eh bien à partir de ce moment-là, on parle plutôt de fœtus. Donc on est à peu près à la semaine 7. Donc en gros, vous voyez comme ça toute l'évolution finalement depuis le zygote jusqu'à finalement la semaine 7, et après bien entendu le fœtus va surtout grossir, il va plus tellement s'organiser en tissu puisque ça c'est fait. Alors ce qui est important, c'est que avant le 5e jour, on parle de période préimplantatoire, c'est-à-dire tout ce qui se passe, toutes les étapes que j'ai montrées tout à l'heure, donc depuis l'ovaire qui relâche l'ovocyte, la fécondation qui se passe à ce niveau-là, et ensuite la migration donc de l'embryon jusqu'à son implantation dans l'utérus. Et après l'implantation, on parle de période post-implantatoire. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je fais cette distinction à mon avis importante. Donc une période pré-implantatoire et une période post-implantatoire, et après 8 semaines, on parle de fœtus. Donc ça, en gros, c'est pour vous situer la définition et les termes du développement. Alors pourquoi je parle de la distinction entre ces deux périodes? C'est que jusqu'aux années 75-80, la fécondation en fait de l'ovocyte et le développement, tout ça se passait en interne. Donc le développement de l'embryon était indissociable du corps de la mère. On ne pouvait pas avoir accès à l'embryon. Et puis, tout a changé, en fait, depuis les années 75-80, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu les techniques de fécondation in vitro. Donc... Rien ne nous sera épargné aujourd'hui. Le train en retard. Vous avez des questions? Vous avez des questions, là, sur le début? Pour en profiter? Non? Ah, ça y est, on continue, c'est bon, ça fait rien, je vais parler fort. Vous m'entendez, là, il n'y a pas de problème?
Oui.
Donc, en fait, depuis les années 75-80, ça a radicalement changé parce que les techniques de fécondation in vitro permettent maintenant d'obtenir les premières étapes du développement pré-implantatoire, donc hors de l'utérus maternel. Donc, ça veut dire que, je pense que c'est important dans la réflexion qu'il y a sur l'embryon, c'est que maintenant, on a un embryon qui peut être hors de l'utérus maternel. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, surtout, finalement, qu'on pose la question du statut de l'embryon. Ça veut dire, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire le statut de l'embryon, de savoir si c'est un être humain en devenir, une personne humaine potentielle, comment est-ce qu'on réfléchit sur cette question du statut et du devenir des embryons. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur ce plan. Alors, juste pour, finalement, le père de la fécondation in vitro, c'est un Anglais, c'est le docteur Edwards, qui a eu le prix Nobel en 2010, et c'est le premier, en fait, qui a mis au point, après des années et des années, ça a duré 10 ans la mise au point, la mise au point de la fécondation in vitro qui a abouti finalement en 1978 à la naissance de Louise Braun. Hein. Donc le premier bébé qui est né par fécondation in vitro. Mais Edwards, il avait commencé déjà à travailler sur ce sujet en 1965. Donc il lui a fallu 10 ans de recherche pour pouvoir arriver à pouvoir implanter un embryon, obtenir d'abord un embryon in vitro et ensuite le transférer dans l'utérus d'une mère et aboutir à la naissance d'un enfant. Après, en France, il y a eu en 1982 Amandine, qui a été le premier bébé qui est né par fécondation in vitro. Et puis, en 1984, donc vous voyez que c'est quand même un petit peu après, il y a la première naissance d'un enfant qui est né à partir d'un embryon qui avait été congelé. Donc, ce qui est aussi une notion très importante, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est que la fécondation in vitro? Quand on fait une fécondation in vitro, il faut des ovocytes et des spermatozoïdes. Donc, en fait, on fait une ponction d'ovocytes dans l'ovaire, hein, donc ce qui se fait par célioscopie, donc c'est juste une ponction à ce niveau-là, ou quelquefois par voie interne, et on ponctionne des ovocytes que l'on met en fait dans une éprouvette, et on recueille des spermatozoïdes d'un autre côté, ces spermatozoïdes dans une autre éprouvette, et on mélange le tout, en fait, et la fécondation va se produire in vitro. Donc, on obtient par, en fait, cette méthode, on peut obtenir plusieurs ovocytes fécondés. On peut en obtenir jusqu'à, en général, on peut en obtenir 5 ou 6. Et ces ovocytes fécondés, on va les mettre dans un milieu de culture, à l'incubateur, à 37 degrés, et on va attendre environ 48 heures, 24 à 48 heures, jusqu'à ce que ces ovocytes fécondés donnent des embryons à peu près de 4 cellules. Ce qu'on appelle morula, ça veut dire une petite grappe. Et ces embryons de 4 cellules, on regarde sous le microscope, et ceux qui sont, entre guillemets, jolis, c'est-à-dire qui sont, et ça, les gens qui s'occupent de fécondation in vitro ont énormément d'expérience là-dessus, ils peuvent dire en regardant sous le microscope si un embryon n'a aucune chance de se développer. Donc dans ce cas-là, on ne le transfère pas. Mais les embryons qui sont de bonne qualité sont retransférés dans l'utérus de la mère avec une canule, donc c'est quelque chose qui est assez facile, et en général, on ne transfère que 1 ou 2 embryons, de façon à ne pas avoir des grossesses multiples, hein, qui sont souvent délétères. Donc on retransfère 1 ou 2 embryons, et ces embryons, dans une proportion assez élevée, vont s'implanter, et donc se développer pour donner un enfant. Alors là, donc ça c'est la technique de fécondation in vitro. Alors, je vous ai dit, il y a à peu près 5 ou 6 embryons qui sont obtenus après fécondation in vitro, enfin pas toujours, mais il peut y avoir entre 5 ou 6 embryons, et donc on a ce qu'on appelle des embryons surnuméraires, c'est-à-dire il va rester, entre guillemets, des embryons une fois qu'on en a implanté 1 ou 2. Donc là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de ces embryons? Donc s'ils sont de bonne qualité, on les congèle, hein, et on verra tout à l'heure pourquoi. S'ils sont de mauvaise qualité, on les élimine, c'est-à-dire qu'on les met à la poubelle. Et puis, donc voilà, c'est ceux qui sont de mauvaise qualité. Donc vous voyez déjà ici, une question qui peut se poser, c'est celle effectivement des embryons surnuméraires. Alors avant de continuer, je vais pas du tout, ne lisez pas en détail le tableau, c'est comme vous l'aurez, vous pourrez le regarder après. Simplement pour vous donner une idée, en France, en 2009, il y a eu 824 000 naissances. Et sur ces 824 000 naissances, il y a 15 000 enfants qui sont nés vivants après fécondation in vitro. Et il y a eu 74 000 tentatives de fécondation in vitro. Donc ça vous donne en gros 1 sur 4, 25% de réussite. Ça vous donne en gros la proportion de réussite. En sachant que souvent, il y a plusieurs enfants. Il y a des accouchements où il peut y avoir des jumeaux. Mais en gros, voilà la proportion. Donc 74 000 fécondations in vitro. Donc vous voyez, c'est quand même un chiffre assez important. Alors, la chose que je n'ai pas dite, c'est que Alors je ne vais pas entrer, on peut en discuter après, mais je ne suis pas une spécialiste de la fécondation in vitro. Hein. C'est très réglementé. Hein. On peut, pour pouvoir bénéficier d'une fécondation in vitro, il faut avant tout qu'il y ait eu un diagnostic médical d'infertilité. Donc en fait, c'est considéré comme une thérapeutique médicale. Et non pas, comme on verra tout à l'heure, ça ne peut pas être en tout cas une accessibilité à l'AMP pour convenance personnelle. Donc c'est à partir d'un diagnostic médical d'infertilité, c'est un geste considéré comme médical. La deuxième chose, c'est que les gamètes qu'on va utiliser, soit ils proviennent du couple parce qu'il y a une infertilité par exemple pour une raison X, Y, soit il peut s'agir d'un don de gamètes, donc soit un don de spermatozoïdes, soit un don d'ovocytes. Mais quand il y a une assistance médicale à la procréation, il faut forcément quand même qu'il y ait un des deux membres du couple qui donne ses gamètes. Hein. Il peut y avoir un don pour un, soit le spermatozoïde, soit l'ovocyte, mais pas pour les deux, d'accord ? Dans la législation actuelle. Donc voilà alors. Qu'est-ce qu'on fait des embryons surnuméraires après fécondation in vitro ? Eh bien, les embryons surnuméraires, donc c'est les embryons qui restent après qu'on ait retransféré dans l'utérus un ou deux embryons obtenus par fécondation in vitro. Donc ceux qui sont en plus, s'ils sont de bonne qualité, ils sont congelés dans l'azote liquide. Et c'est pour ça que c'était important tout à l'heure quand je vous disais qu'en Australie, en 84, le premier bébé est né après implantation dans l'utérus d'un embryon congelé puis décongelé. Donc ça voulait dire que la congélation n'altère pas le potentiel des embryons congelés de se développer en un enfant. Et ça, depuis maintenant, on le sait tout à fait bien. Donc comment est-ce que ces embryons sont donc congelés? Donc la conservation, bien sûr, on les congèle avec le consentement du couple. Et puis tous les ans, le couple reçoit une lettre lui demandant ce qu'il veut faire de ses embryons. Et en fait, soit le couple souhaite avoir d'autres enfants, il peut y avoir eu un premier enfant et il souhaite avoir d'autres enfants par fécondation in vitro, donc on va utiliser ces embryons congelés normaux, soit le couple ne souhaite plus avoir d'enfants avec ces embryons, c'est ce qu'on appelle abandon du projet parental. Le projet parental, c'est le fait que le couple souhaite, à partir de ces embryons, avoir un enfant. S'il ne souhaite plus avoir un enfant, il n'y a plus de projet parental. Donc qu'est-ce qu'on fait des embryons? Eh bien à ce moment-là, c'est le couple qui décide. Soit il décide de donner l'embryon à un autre couple infertile, mais pour lequel la fécondation in vitro a échoué, soit il décide de donner ses embryons pour la recherche, et je vous donnerai un exemple de ce qu'on peut faire avec ces embryons pour la recherche, soit il demande à ce que les embryons soient détruits, c'est-à-dire décongelés et détruits. Donc, en gros, pour vous donner une idée, fin 2009, il y a 165 000 embryons congelés, dont à peu près 109 000, donc quand même la majorité, il y a un projet parental en cours, c'est-à-dire que le couple souhaite utiliser, éventuellement utiliser les embryons congelés. Et pour 26 000, il y a un abandon du projet parental et il arrive parfois qu'il n'y ait pas de réponse ou qu'il y ait un désaccord à l'intérieur du couple, ce qui est le cas ici pour 29 000. Donc ça vous donne une idée actuellement de finalement que fait-on de ces embryons surnuméraires. Avant de continuer, je voulais aussi vous dire qu'il y a autre chose qui est important d'un point de vue médical à nouveau, c'est que dans certaines familles, il y a des maladies génétiques graves et incurables chez un membre du couple, donc la femme ou l'homme, ou bien chez un ascendant, c'est-à-dire soit chez un parent, soit chez un frère et sœur, soit déjà chez un enfant qui est né avec une maladie génétique grave ou incurable, et que dans ce cas de maladie génétique, on sait quelquefois tout à fait précisément quel est le gène atteint. Et donc, quand on sait quel est le gène atteint, on peut faire un diagnostic génétique. On peut regarder dans les cellules, on sait maintenant par des techniques assez sophistiquées, on sait reconnaître si un gène est présent ou absent, et éventuellement même s'il est altéré. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on fait une fécondation in vitro, et après la fécondation in vitro, sur les embryons qui sont obtenus, on fait un diagnostic préimplantatoire. On va d'abord faire une biopsie, ce qu'on appelle une biopsie embryonnaire, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une pipette très fine, on va prélever une ou deux cellules de cet embryon qui en contient en général 8. Et sur ces une, alors le fait d'enlever une ou deux cellules ne compromet pas le développement de l'embryon. Il peut tout à fait se développer en un enfant, même si on a retiré une ou deux cellules initialement. Et donc sur ces une ou deux cellules, on va faire un diagnostic. Bon, je vous ai montré une illustration ici. On va faire un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que on va regarder quelle est l'expression des gènes. Donc pour vous donner un exemple, ici je crois que c'était les deux sur deux cellules normales ici. Ici c'était les deux gènes X. Donc vous voyez les deux chromosomes pardon X. Donc vous voyez qu'on peut très bien les repérer facilement par des techniques de repère qu'on appelle FISH. Bon, j'entre pas du tout dans le détail. Et puis ici, il n'y en a qu'un. Donc, et puis il y a une autre possibilité avec des technologies encore plus sophistiquées de regarder en fait tous les gènes qui sont présents sur un chromosome et on peut voir à un moment donné qu'il y a ou non un décalage qui est anormal. Donc, on a à l'heure actuelle des possibilités tout à fait fiable de faire un diagnostic et donc de dire cet embryon est porteur ou non de la mutation qui est responsable de la maladie. D'accord ? Et donc dans ce cas, évidemment, si l'embryon est porteur de la mutation, il n'est pas implanté. Et donc ne seront réimplantés que les embryons qui sont sains, donc qui sont au moins, qui ne sont pas porteurs de la mutation. On ne peut pas aller plus loin. Et donc, en gros, et vous savez probablement que vous avez peut-être entendu parler de la possibilité exceptionnellement de faire ce qu'on appelle un bébé du double espoir, quand dans une fratrie, il y a un enfant qui est déjà atteint et qui peut éventuellement bénéficier d'une greffe de sang de cordon d'un frère ou d'une sœur qui serait compatible, on peut, dans ce cas-là, sur une fécondation in vitro pour ce même couple, faire un diagnostic préimplantatoire pour s'assurer que l'embryon n'est pas porteur de la mutation et en plus regarder si l'embryon est ou n'est pas compatible avec le frère malade. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel mais qui peut se faire dans des cas tout à fait bien réglementés. Donc pour vous donner une idée, il y a eu en 2010 303 fécondations in vitro avec diagnostic préimplantatoire et à partir de ce diagnostic préimplantatoire, il y a 59 enfants qui sont nés. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même assez rarement pratiqué. Alors, donc ça je l'ai déjà dit. Donc, quand on veut faire de la recherche sur l'embryon, ça c'est mon troisième exemple avant de passer à une discussion plus éthique. Des questions éthiques. Quand on fait de la recherche sur l'embryon, en fait, on a donc possibilité de faire de la recherche sur des embryons qui sont préimplantatoires, donc qui sont obtenus par fécondation in vitro, d'accord ? Donc, ce sont ces embryons surnuméraires, congelés, normaux, qui sont donnés par le couple pour la recherche, et puis on peut aussi faire de la recherche éventuellement sur des embryons qui sont situation complètement différente, qui n'a rien à voir avec le préimplantatoire, sur des embryons qui sont obtenus après interruption volontaire de grossesse, donc après avortement, d'accord ? Qui est une autre source d'embryons. Mais attention, on est dans une situation complètement différente, puisque dans ce cas-là, les embryons sont des embryons morts, puisque séparés de l'utérus de la mère, alors que ici, on est dans une situation complètement différente, puisque on a des embryons qui sont des embryons qui ont tout leur potentiel de donner un individu vivant. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qu'on fait en recherche avec des embryons qui ont été donc donnés par le couple, ils donnent leur consentement à ce que ces embryons soient utilisés en recherche. Donc, ce qu'on fait le plus fréquemment en recherche, c'est d'établir ce qu'on appelle des lignées de cellules souches embryonnaires. Donc, je ne vais pas du tout entrer dans le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir donc de ce stade de blastocyste que je peux obtenir in vitro, hein, donc fécondation in vitro, embryon donné à la recherche, donc je prends cet embryon et je vais en fait récupérer la petite boule que je vous montrais tout à fait initialement, que j'ai appelée la masse interne, hein, et je vous ai dit c'est ça qui va donner les tissus de l'embryon. Eh bien, je vais découper en fait cette petite masse interne et je vais la cultiver dans une boîte de pétri au laboratoire avec du sel, du poivre, enfin non, d'une recette, disons, des facteurs de croissance que je ne détaillerai pas parce que c'est pas ici l'intérêt. Et donc, en fait, je vais cultiver ces cellules et ces cellules vont se développer et elles vont me donner, ce qu'on voit pas très bien ici, une colonie avec plein de cellules à l'intérieur qui sont serrées les unes contre les autres. Et ces cellules sont en fait des cellules qu'on appelle souches embryonnaires. Et ce qui est tout à fait important dans le cas de ces cellules, c'est que, un, elles peuvent se diviser de façon indéfinie. Et deuxièmement, elles ont gardé le potentiel qu'avaient ces cellules qui étaient ici dans l'embryon de donner les tissus de l'organisme. Donc en fait, quand je cultive des cellules à partir de ce blastocyste, je peux obtenir des cellules souches embryonnaires que je peux faire se diviser de façon infinie, c'est ce qui est sur cette diapositive. À un moment donné, cette colonie, quand elle devient trop grosse, eh bien je vais la découper en petits bouts et chaque petit bout, je vais le remettre sur un support dans une nouvelle culture, ça va me redonner à nouveau une colonie et ainsi de suite. Et en fait, je peux tout à fait utiliser toutes ces cellules pour les congeler dans l'azote liquide et ça me fait une lignée de cellules souches embryonnaires. Alors, ce qui est important, il y a deux choses. C'est un, et c'est pour ça que ça pose problème, on va voir tout de suite, c'est que si je fais ça, je détruis l'embryon. D'accord ? Donc, c'est ça la principale question éthique que pose le travail de recherche sur les cellules souches embryonnaires, ou sur l'embryon, c'est que si je fais de la recherche sur un embryon, il est détruit. Donc, on verra tout à l'heure quelle est la légitimité, finalement, de pouvoir faire cette recherche sur l'embryon. La deuxième chose importante, ne regardez pas ce qui est marqué, mais juste, c'est pour vous donner une idée, à partir de ce petit bouton que je montrais, j'obtiens donc des cellules qui vont proliférer à l'infini. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cellules, elles ont la capacité, comme avait le petit bouton de cellules, de me donner l'ensemble des tissus de l'organisme, et c'est ici libellé sur cette diapo. Et en fait, à partir de ces cellules souches embryonnaires, je sais au laboratoire comment faire pour obtenir des cellules de peau, pour obtenir des cellules du système nerveux, des neurones, pour obtenir des cellules de l'œil, pour obtenir des globules rouges, etc. Donc en fait, ces cellules ici, qu'on appelle cellules souches embryonnaires, sont une source très importante, quasiment illimitée, deux cellules différenciées des différents tissus de l'organisme. D'accord ? Donc je ne vais pas entrer dans le détail de la façon de faire, mais simplement, je peux revenir sur un exemple si ça vous intéresse tout à l'heure, mais simplement, donc, si ces cellules ont cette propriété, vous voyez immédiatement qu'elles peuvent être extrêmement importantes, éventuellement en transplantation, hein, pour réparer ou remplacer des cellules malades, et elles peuvent être aussi utiles pour faire des modèles de maladies. Et par exemple, eh bien, il y a un essai clinique qui est actuellement en cours aux États-Unis, où en fait, on injecte, on utilise donc des cellules du système nerveux. Ce sont des cellules qu'on appelle oligodendrocytes. Et ce qui est important, c'est que ces cellules, elles fabriquent la gaine de myéline qui est autour des nerfs, dont vous avez sûrement entendu parler. Cette myéline qui est responsable du fait que l'influx nerveux peut passer sur vos axones. Hein. Donc si je lève le bras, c'est que j'ai un influx nerveux qui est passé le long de mon axone, qui va arriver aux muscles de mon bras. Donc dans certains cas, quand on a une lésion de la moelle épinière, si vous avez, s'il y a un accident et qu'il y a une rupture ou une lésion de la moelle épinière qui est donc dans ma colonne vertébrale, eh bien je suis paralysée. Et c'est parce que les axones, il n'y a plus d'influx nerveux qui passe, les axones ont été rompus. Et donc l'hypothèse là, c'est que est-ce que si j'injecte au niveau de cette lésion des cellules que j'ai différenciées, que j'ai obtenues à partir de cellules souches embryonnaires, est-ce que je vais pouvoir améliorer en fait ou non cette lésion? Donc c'est un exemple d'application thérapeutique possiblement importante avec les cellules souches embryonnaires. Donc il y a d'autres exemples dans la maladie de la rétine, je ne vais pas insister là-dessus. Mais donc c'est un exemple. On n'a pas le résultat pour l'instant de cet essai clinique, donc je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas. Bon, je vais relativement vite parce que je voudrais passer à la discussion éthique. Mais donc tout ça pour vous montrer un exemple de l'importance en recherche de ces cellules souches embryonnaires qui peuvent être éventuellement utiles d'un point de vue thérapeutique. Donc en gros, dans la première partie, finalement, je vous ai montré le développement de l'embryon. Je vous ai montré que maintenant, il y avait eu quand même une étape extrêmement importante qui est qu'on peut avoir accès aux embryons indépendamment de la mère, qui est quand même fondamentale, et une troisième étape qui est un exemple de recherche sur l'embryon, c'est-à-dire la dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires et l'intérêt qu'elles peuvent avoir en thérapeutique. Maintenant, je pense que je voudrais revenir en fait sur les questions éthiques que pose l'accès à ces embryons, parce que c'est, un matériel, le terme est probablement mal choisi, mais je parle en tant que chercheur, mais disons que c'est un tissu qui est tout à fait particulier. Donc on ne raisonne pas sur ces embryons comme on raisonne sur un tissu comme le cœur, le foie ou autre. Donc quelles sont les questions éthiques qui sont posées par l'accès à ces embryons? Donc il y a des questions qui sont posées par l'accès à l'AMP, donc à la fécondation in vitro. Donc pour l'instant, je vous ai dit que c'était une application médicale. Donc on peut considérer que cette pratique est une pratique artificielle, on peut discuter les problèmes éthiques qui sont liés au don de gamètes, comme ça a été évoqué récemment dans la presse, ou peut-être vous en avez discuté, et la question des embryons surnuméraires finalement. Que représente cet embryon surnuméraire? Ensuite, il y a des questions qui se posent à propos du diagnostic préimplantatoire. Est-ce que finalement je ne fais pas une sélection d'embryons? Est-ce que ça ne peut pas avoir... Je ne fais pas une sélection d'embryons. Je ne choisis pas un embryon avec un caractère particulier. En fait, j'élimine un embryon qui a une mutation donnant une maladie grave. C'est pas du tout la même chose. Hein. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de la restriction actuelle en France du diagnostic préimplantatoire qui est très encadré, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc est-ce qu'il peut y avoir là un risque de dérive? Et puis pour la recherche, qui est le problème en fait de la destruction de l'embryon qu'on va utiliser en recherche. Alors comment est-ce qu'on réfléchit sur l'embryon finalement? Vous avez certainement réfléchi, vous avez certainement une opinion. Donc comment est-ce que ça se discute? Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel, c'est-à-dire que chacun a sa conviction personnelle, qu'elle soit morale, qu'elle soit basée sur
sur des convictions religieuses, etc.
Ça, c'est tout à fait respectable. Ce qui fait que chacun a la liberté de choisir ou non, par exemple, éventuellement d'avoir recours un jour à une fécondation in vitro si c'est nécessaire, ou bien de travailler ou de ne pas travailler sur l'embryon. Donc là, le choix est un choix personnel qui est toujours possible. Et puis, il y a un second niveau, qui est le niveau de la société. C'est-à-dire que finalement, on est dans une société où il faut qu'il y ait une certaine réglementation. Donc comment est-ce que finalement on va aboutir à cette réglementation qui doit être la plus consensuelle possible, à la fois pour assurer la coexistence de la liberté individuelle et en même temps pour qu'il puisse y avoir des rapports entre les hommes dans une société qui ait un minimum de réglementation pour que on puisse y vivre correctement, donc un minimum de règles de conduite. Donc c'est là qu'intervient la notion du droit. Et en ce qui concerne l'embryon, ce sont les lois de bioéthique qui régissent en fait tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon. Donc je ne donne pas de réponse parce que je n'en ai pas. Hein, donc il n'y a pas de vérité en l'occurrence sur ces questions-là. Il n'y a encore une fois qu'une réflexion individuelle ou qu'une réflexion de la société ensemble pour aboutir à un consensus réglementaire, mais il n'y a pas de choses vraies ou fausses. Hein. Donc simplement, je pense que c'est peut-être intéressant de prendre des exemples, par exemple, de comment est-ce que les différentes religions considèrent l'embryon. Je pense que parce que c'est indiscutable que par exemple en France, c'est vrai que la religion catholique a influencé quand même la teneur des lois de bioéthique. Donc c'est vrai que selon l'environnement dans lequel on évolue et on vit, eh bien il peut y avoir un impact des considérations religieuses. Donc c'est intéressant de regarder parce que ça peut amener aussi à enrichir sa propre réflexion sur comment on considère un embryon. Par exemple, dans la religion juive, eh bien, le statut d'être humain est acquis progressivement. Donc, en fait, dans cette religion, jusqu'à 40 jours, l'embryon ne représente presque rien. En fait, c'est une goutte d'eau, en gros. Et donc, le statut de l'embryon n'existe pas vraiment. Et donc, finalement, pour cette religion, l'embryon pré-implantatoire n'a pas du tout le même caractère sacré que l'embryon qui est implanté dans l'utérus de la mère. Et c'est vrai qu'on retrouve assez souvent cette notion que tant que l'embryon n'est pas implanté, eh bien, dans certains pays, on parle de pré-embryon. Et l'embryon, entre guillemets, j'allais dire réel, on est considéré comme sacré ou comme, inaccessible en tout cas certainement, qu'à partir du moment où il est implanté dans l'utérus. D'accord ? Et avant, finalement, dans la religion juive, ça n'est pas tout à fait la même dimension. Ceci dit, quoi qu'il en soit, et ça c'est vrai de toutes les considérations religieuses, l'utilisation à des fins de recherche ne se conçoit que s'il y a une intention thérapeutique. C'est-à-dire, on ne fait pas de la recherche sur l'embryon pour s'amuser. Il faut quand même qu'il y ait une intention médicale ou thérapeutique. Donc, en fait, pour le bien-être de l'humanité, en gros, si je peux dire comme ça. Si on regarde ce qui se passe dans l'islam, on n'est pas très très loin du précédent, puisque pour le Coran, c'est pareil, le développement de l'embryon passe par plusieurs étapes, et on a aussi quelque chose qui est très important, c'est que pour cette religion, tant qu'il n'y a pas eu insufflation de l'âme dans l'embryon, on ne peut pas vraiment, cet embryon finalement, n'a pas la même considération. Et en fait, ça survient aussi vers le 40e, 45e jour, un petit peu plus tard chez la femme. Mais 40, 45e jour, et au-delà seulement, l'embryon finalement est considéré comme ayant une vie propre. D'accord ? Donc vous voyez que là aussi, il n'y a pas la même notion de l'embryon avant, au début, et finalement, après 35-40 jours, qui, dans les deux religions, semble une limite importante. En revanche, effectivement, pour l'Église catholique, c'est complètement différent, puisque pour l'Église catholique, en fait, elle voit dans l'embryon, dès la conception, donc c'est-à-dire dès que le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovocyte ont fusionné, pour cette religion, il y a dès la conception un être humain qui ne peut pas être un objet disponible ou traité comme une chose. Et donc ça, c'est sûr que l'Église catholique réprouve en fait ce qui est de l'ordre de l'instrumentalisation pour elle, et elle réprouve effectivement la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Et autre religion qui fait partie du christianisme, mais chez les anglicans, donc en Angleterre, et vous allez, c'est pour ça que j'en parlais tout à fait initialement, il y a une distinction entre l'embryon avant 14 jours et après 14 jours, et vous voyez, c'est l'émergence de cette ligne que je vous montrais sur l'embryon qui était un disque. Il y avait une ligne qu'on appelle la ligne primitive, en fait, et pour les Anglais, pour les Anglicans, avant 14 jours, l'embryon n'a pas la même valeur, entre guillemets, qu'après 14 jours. Il n'a pas le même caractère sacré. Donc ça, c'est les considérations religieuses. Donc vous me direz, c'est difficile après d'arriver à un consensus réglementaire, quelque part, pour les lois de bioéthique. Donc en gros, en France, le terme embryon est utilisé dès le stade de l'œuf fécondé. Bon, et dans d'autres pays, ce que je disais tout à l'heure, c'est le stade de pré-embryon. Donc en fait, toute la question, c'est finalement, comment est-ce que je considère l'embryon ? Est-ce que c'est un amas de cellules ? Ou est-ce que c'est déjà une personne ou un être humain ? Et là, la distinction, elle n'est pas du tout anodine. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais quand on fait une loi, on s'appuie en général sur le droit. Et le droit, en France, qui est quelque chose qui est écrit dans le code civil, etc., pour le droit, il y a deux catégories. Il y a une personne, vous et moi, nous sommes des personnes, dans cette salle, tout le monde a le qualificatif de personne, et puis il y a les choses, d'accord ? Et en fait, pour le droit français, avant la naissance, l'individu n'existe pas. Donc l'embryon en tant que tel n'existe pas pour le droit français. Donc c'est un problème quand même. Donc c'est pas une... Donc, à l'évidence, c'est pas une personne, mais c'est pas une chose non plus. Donc le droit français se trouve devant un problème, qui est comment est-ce qu'on considère finalement l'embryon. Et du coup... et donc finalement il y a une phrase qui a été ajoutée dans le code civil en 1975, et je vous rappelle qu'en 1975 c'est le vote de la loi Veil, c'est-à-dire en fait l'autorisation dans des conditions extrêmement précises d'interruption volontaire de grossesse quand il y a la détresse de la mère. Et c'est lorsque cette loi en 1975, qui est d'ailleurs très importante pour la réflexion sur l'embryon, a été votée, qu'il y a cette phrase qui a été ajoutée, c'est qu'en fait l'embryon est un être humain potentiel. Bon. Et qu'en tant que tel, il doit être respecté dès le commencement de sa vie. Mais vous voyez que là, c'est très difficile de dire ce que ça veut dire que le commencement de sa vie. Donc, encore une fois, je vous montre ça, ça peut paraître compliqué, mais je pense que c'est très important de se rendre compte que finalement l'embryon peut poser un problème de définition, peut poser un problème de où est-ce qu'on, comment est-ce qu'on le regarde, comment est-ce qu'on le considère d'un point de vue juridique ou bien d'un point de vue religieux, et que, évidemment, moi je n'ai certainement pas de réponse, je pense qu'il n'y a pas de vérité d'ailleurs non plus, mais donc c'est une question. Donc la question demeure, mais je pense que c'est important de se rendre compte que cette discussion, en fait, existe et qu'elle peut poser problème. D'accord ? Donc l'embryon ou le fœtus in utero n'a pas d'existence pour le droit français, n'a pas d'existence juridique autonome en dehors de la mère. Donc ça a été très compliqué finalement, du coup, d'arriver à faire une réglementation. Cette réglementation... elle est mentionnée dans les lois de bioéthique. Les lois de bioéthique existent depuis 1994, donc vous voyez, c'est quelque chose de très récent. Et les lois de bioéthique, la notion de bioéthique, qu'est-ce que c'est que la bioéthique dont on entend toujours parler ? C'est quelque chose qui n'est pas très très bien défini, du moins là c'est une opinion personnelle, et qui est finalement qui essayait de trouver un consensus acceptable de règles, de réglementation pour pouvoir régir toutes les avancées de la médecine et de la science qui galopent, hein, qui vont à une vitesse folle. Et donc en fait, les arguments de droit, de philosophie, de morale, de religion sont inclus et font partie de la discussion qui aboutissent à la loi, aux lois de bioéthique. Et donc ces lois de bioéthique, elles régissent tout ce qui concerne l'accès au corps humain, elles régissent tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation et elles régissent tout ce qui concerne la recherche sur l'embryon. D'accord ? Et juste pour vous donner un exemple, c'est qu'à l'heure actuelle, il est interdit de faire de la recherche sur l'embryon. C'est comme ça que c'est noté dans la loi. La recherche sur l'embryon est interdite. Mais il peut y avoir des dérogations. Donc je peux travailler sur l'embryon si je peux démontrer que mon projet scientifique est pertinent et qu'il permet ou qu'il va permettre des progrès médicaux majeurs. Ça, c'est dans la loi qui vient d'être votée en 2011. Avant, on parlait de progrès thérapeutique majeur. Donc vous voyez qu'on revient sur cette notion que je peux faire de la recherche sur l'embryon, mais qu'il faut que ça serve finalement d'un point de vue médical. Et il y a une autre condition, c'est qu'il faut que je prouve, mais ça c'est une condition plus scientifique, il faut que je prouve que je ne peux pas faire cette recherche par d'autres moyens que je suis obligée d'utiliser ces cellules. D'accord ? Et donc cette recherche ne peut être faite que sur des embryons qui sont conçus in vitro, dans le cadre d'une fécondation in vitro avec un projet parental, d'accord, et qui ont été donnés à la recherche par le couple. Et il y a une agence spécifique qui délivre les autorisations, qui est l'Agence de la biomédecine. Alors, ce qui est interdit, et je pense que là c'est important, c'est je ne peux pas créer d'embryons spécifiquement pour la recherche. Donc je ne peux pas prendre des spermatozoïdes, des ovocytes, faire un embryon uniquement pour la recherche. Donc en France, à l'heure actuelle, les embryons qui sont utilisés pour la recherche proviennent nécessairement d'un don d'un couple qui avait des embryons surnuméraires congelés normaux. Ce qui est interdit également, c'est... Alors, transfert nucléaire, peut-être je ne l'aborderai pas, ça va dépendre du temps, oula. Ce qui est interdit, c'est de modifier le génome des embryons donnés à la recherche et évidemment d'implanter dans un utérus les embryons qui ont été donnés à la recherche. Alors pour conclure, quelle discussion, comment, il y en a d'autres, hein, c'est juste des exemples. Donc comment est-ce que tout ça va évoluer? Parce que vous voyez qu'on est sur des réglementations qui sont mouvantes et puis il y a beaucoup d'avancées de la société. Il y a beaucoup d'avancées scientifiques, donc comment est-ce que, quelles sont les questions qui vont se poser immanquablement rapidement? Une des premières questions qui peut se poser, c'est qu'actuellement la fécondation in vitro et l'assistance médicale à la procréation, c'est un acte médical lorsqu'il y a un diagnostic d'infertilité médicale. Est-ce qu'il y aura un jour une possibilité d'ouverture vers des indications, ce que j'appelle infertilité sociale. Ce que je veux dire, c'est par exemple, c'est le problème des couples d'homosexuels, c'est le problème des femmes célibataires, c'est le problème de certaines, des personnes qui actuellement n'ont pas accès à la fécondation in vitro, mais qui pourraient souhaiter avoir accès. Donc, est-ce que, quelle sera la discussion dans l'avenir sur ces problèmes-là? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'extension du diagnostic préimplantatoire? Quel est le danger d'étendre les indications du diagnostic préimplantatoire? Quelles peuvent être les conséquences finalement? Comment finalement c'est important parce que ça revient à se poser la question, donc que représente l'enfant, hein, finalement? Pas par l'embryon, on a discuté de l'embryon, mais finalement ça revient à que représente l'enfant? Et finalement, que représente la notion de filiation ou de parentalité? Je pense qu'on débouche forcément sur ces questions-là. Et puis, il y a une deuxième question. Alors là, il y en a plein d'autres. Hein, je n'ai mis que celle-là. Mais puis, il y a d'autres questions qui peuvent se poser sur l'évolution de la recherche sur l'embryon. Et notamment, je vais prendre un exemple qui va illustrer ce que je veux dire. C'est, est-ce que, par exemple... on pourra obtenir des embryons synthétiques, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par synthétique? Je veux dire par synthétique que Est-ce qu'à partir de cellules souches embryonnaires, là c'est pas iPS, c'est souches embryonnaires, est-ce que je vais pouvoir obtenir à partir de ces cellules des spermatozoïdes et éventuellement des ovocytes? Et à ce moment-là, est-ce que si je fais féconder l'un par l'autre, je vais pouvoir obtenir un embryon? C'est peut-être de la science-fiction, mais comment est-ce que on pense ce genre de problème? Puis c'est probablement vous qui aurez à le discuter dans la société, parce que je pense que ça peut se poser d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc je pense que c'est à la société, et donc à vous, en tant que représentante de la société, qui aurait à décider de ça. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met la limite scientifique, en d'autres termes, hein? C'est-à-dire, ça va peut-être être un jour possible d'un point de vue scientifique un jour. Qu'est-ce que ça voudra dire, à ce moment-là, cette notion d'embryon, qui, évidemment, ne sera jamais implantée dans l'utérus. Donc, évidemment, ne donnera jamais un enfant. Donc, est-ce que je dois considérer de la même façon un embryon qui avait un projet parental initial et un embryon qui éventuellement serait obtenu d'une façon scientifiquement par une technologie qui est en progrès, mais qui n'a aucun projet parental et qui n'en aura aucun, puisqu'il ne sera pas destiné à donner un individu, mais sera simplement destiné à être éventuellement utilisé en recherche. Donc voilà un peu le sujet de la discussion, et je pense que ces réflexions sont extrêmement importantes, encore une fois, parce que je pense que ça se posera, et c'est vous en tant que société qui aurez à décider de ces questions. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Bon, il y a une autre, bon, on peut le faire si ça vous intéresse. Il y a l'autre problème qui était celui du transfert nucléaire, mais ça nous emmènerait peut-être un petit peu plus loin. Donc là, c'est, si vous voulez, on en discutera, mais je préfère peut-être là avoir vos réflexions, ou comment est-ce que vous avez, je suis sûre que vous avez réfléchi avec peut-être vous voulez
Je me dis qu'ils m'ont
donc si vous avez des questions ou des réflexions ou ce que vous en pensez ou ce que
on va organiser.